Entre nous, l'histoire du Très Carré, un balado présenté par le Moulin des Jésuites. Rencontrer M. Pajot pour l'épisode 1 a été un merveilleux moment de partage. Avoir la chance de s'immerger dans son atelier et de l'entendre parler avec passion de ce qui l'anime et de la façon dont il vit son métier est à la fois touchant et tellement enrichissant. C'est aussi ça le Très Carré. Un espace où il est permis de prendre le temps de discuter avec celles et ceux qui font vivre le quartier. Je m'appelle Mélise et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2. Pour ce deuxième épisode, je vais d'abord vous inviter à retourner dans le passé. Nous sommes en 1920. En se promenant dans le Très Carré, dans le parc de la Commune, on peut entendre un bourdonnement sourd. Ce sont les 60 000 abeilles de Jacques-Ferdinand Verrette, un commerçant, maître de poste, grenetier et apiculteur. Le miel produit est acclamé partout dans le monde. À sa mort, Hector, son neveu, reprend les rênes de cet élevage apicole jusqu'en 1962. Après une pause de 50 ans, les abeilles sont aujourd'hui de retour dans le Très Carré, grâce à la famille Filion. Le métier d'apiculteur possède ici une histoire unique. J'ai voulu en discuter avec les élèves de la classe de Madame Valérie.
Donc, on va parler de vieux métiers aujourd'hui. On va parler des métiers du Très Carré en particulier. Et à main levée, qui est déjà venu au moulin? Oui! Est-ce que vous savez un peu, il est situé où?
Oui. Au niveau de la bibliothèque Palais-Mupaiement. Je sais pas si ça aide, là, mais c'est...
Un peu dans ce coin-là, oui.
Pour la chocolaterie, là.
C'est dans le Très Carré.
Exactement. Le moulin se trouve dans le Très Carré. Donc, le Très Carré qui est juste là. J'ai mis quelques points, je pense qu'on va pouvoir les reconnaître ensemble. Ici, c'est quoi?
Le Très Carré.
Oh, j'avais pas. Là-bas, tout à votre droite.
Le Moulin. Le Très Carré.
Ici.
L'église.
Et juste en haut.
Le Moulin.
Le chocolat favori.
Chocolat favori, oui. Donc, ça peut vous aider à vous situer. Donc, le Très Carré, c'est vraiment le petit carré qu'on voit là. Quand on parle du Très Carré, on parle des rues Très Carré Est et Très Carré Ouest. On peut pas se tromper vraiment. Il y en a qui restent dans le Très Carré, dans la section ici ou alentour. Ouais, il y en a qui restent proches.
Alentour.
Alentour.
Moi, je vais dans ma maison. C'est où l'encroisement du 4 en bas ou le boulevard Cloutier en haut?
Boulevard
non, plus haut, ouais.
Le Cloutier là-bas aussi, oui.
Et toi, sur la rue du Moulin des Jésus.
La rue du Moulin des Jésus, donc vraiment la rue juste ici, ouais. Comment juste à côté. Ah, wow! Donc, le Très Carré, c'est quelque chose qui est particulier. Vous savez pourquoi le Très Carré est spécial? Donc, pourquoi le Très Carré est unique?
Ben, il y a la bibliothèque, le Moulin des Jésus, disons, il y a plein de grands bâtiments.
Il est en forme de carré.
Moi, c'est comme Monsieur Hubert, c'est en forme de carré. Mais c'est surtout que, ben, il y a des monuments un peu spéciaux, genre une chocolaterie à côté d'une bibliothèque. Est-ce que vous avez déjà vu une chocolaterie près d'une bibliothèque?
Le sens, ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO ou quelque chose dans le genre.
C'est presque ça, c'est reconnu par la ville de Québec comme un site patrimonial. Donc, on va en parler un peu tout à l'heure. Mais effectivement, oui, c'est reconnu comme un site d'histoire, oui.
Il me semble que ça fait longtemps qu'il est là.
Oui, ça fait très longtemps.
Les bâtiments sont très vieux.
Mais c'est un quartier ancien, c'est juste.
Quartier ancien, ben oui, c'est toutes des bonnes réponses, oui.
Ça a été créé en 1665.
Exactement, oui.
Ben, je sais que la chocolaterie, c'est un ancien manoir.
On a beaucoup de bâtiments anciens, des vieux bâtiments, donc chargés d'histoire et tout. Et donc, on parle d'histoire de vieux bâtiments, on va faire un petit quiz patrimoine. Est-ce que le Moulin des Jésuites fait partie du patrimoine?
Oui.
Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est chargé d'histoire, qui est important et qui a été transmis de génération en génération. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est là, le Moulin des Jésuites, donc en 1742. Oui.
Puis, ils l'ont encore conservé aujourd'hui.
Exactement. Donc, il y a la partie de garder jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que l'église du Très Carré fait partie du patrimoine?
Oui,
exactement. Donc ça, on parle de patrimoine bâti, donc de patrimoine matériel. Donc on voit des bâtiments, donc il y a beaucoup de bâtiments qui font partie du patrimoine, mais pas tous. Est-ce que dans le Très Carré, il y a beaucoup de maisons liées au patrimoine, vous pensez?
Oui.
Et c'est pour ça, on parlait tout à l'heure que le Très Carré avait été mis comme lieu patrimonial, parce que il y a énormément de d'éléments qui sont liés au patrimoine dans des maisons. On a ici la maison du chocolat favori, donc on parle de patrimoine quand on parle de maison ici.
Oui,
exactement. Le parc de la commune.
Oui.
Est-ce que ça fait partie du patrimoine?
Oui.
Pourquoi? Encore. Oui.
C'est un vieux parc, là.
Tout à fait.
Peut-être qu'il y a des événements, là.
Ok, oui. En arrière.
Peut-être que les plantes plus rares que d'autres. Peut-être que c'est un endroit symbolique, je sais pas trop.
Le français.
Des fois, on fête la fête du Québec. Là.
C'est un parc, ben oui, symbolique et qui fait rappeler aux gens, ben.
Oui, c'est un lieu de festival et tout. C'est effectivement un lieu historique important. Donc, il y a eu des événements là par passé, mais ce qui est important, c'est que c'était au cœur du Trécaré. Il y a une histoire qui est rattachée à ce parc-là. Donc, quand il y avait les colons, il y avait des gens qui construisaient leur maison. C'était l'endroit où on faisait fête nos animaux. Donc, au fur et à mesure du temps, le parc est resté un endroit de verdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a parlé de patrimoine bâti, de patrimoine, justement, plusieurs types de patrimoine, donc territoire, donc au niveau des parcs, au niveau des bâtiments, puis un autre type de patrimoine, on parlait de patrimoine immatériel. Donc, quelque chose qui est transmis de génération en génération, quelque chose qui est important pour l'histoire, mais quelque chose qu'on peut pas toucher. On va passer sur le deuxième métier. Donc, on avait dit quel métier déjà?
Apiculteur.
Oui. Avant de partir avec la petite vidéo, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'un apiculteur fait?
Oui. C'est avec les abeilles.
Oui, c'est avec les abeilles.
Souvent, qui va chercher du miel. Ben, il s'occupe des abeilles, puis il va chercher du miel.
Peut-être qu'il va aussi les nourrir.
Il s'occupe, il nourrit, il crée des ruches pour les abeilles, et il va chercher le miel et la cire d'abeilles.
Oui, en arrière ici.
Il peut aussi pas pour, juste pour aller chercher du miel, mais aussi pour qu'il pollinise, pour que son environnement soit plus beau, puisque la terre est mieux.
Est-ce que ça fait le tour un peu?
Ouais. Ouais. Il construit une ruche.
Donc, vous allez voir M. Bernard Fillion et sa fille Chloé Fillion.
Bernard Fillion, je suis biologiste. J'ai eu une carrière en conservation de l'environnement. L'apiculteur, c'est quelqu'un qui a des ruches, qui a des abeilles, et pour produire du miel. Donc, c'est quelqu'un qui est attentionné, passionné, qui se préoccupe des détails, qui aime la nature. Ça fait 12 ans que je suis initié moi-même à l'apiculture, avec au début une seule ruche, puis qui a progressé par la suite, puis qui a impliqué mes deux filles, Marie-Laure et Chloé. Bon, dans l'entreprise, parce qu'on a fait une entreprise, Fillion et filles, mon rôle, c'est vraiment toute la coordination des activités, des opérations, le suivi des ruches, l'extraction. Donc, vraiment, c'est le moteur central de l'entreprise, puis se greffe occasionnellement ou Marie-Laure ou Chloé pour contribuer à leur façon, selon leur intérêt, à l'entreprise. Parce qu'il faut bien voir qu'au départ, c'était une activité qui était plus très familiale. Puis l'idée de départ, c'était de faire une entreprise qui permettrait d'avoir un peu de sous pour soutenir les activités parascolaires des deux filles. Puis progressivement, il y a eu certaines opportunités qui se sont présentées. On est passé l'étape pratiquement secret, personne ne savait qu'on avait des ruches dans le Trécaré, à maintenant à produire du miel de façon assez importante pour être dans quelques épiceries de la région. Puis aussi, ça l'a branché les filles dans la communauté. Au départ, la première vente, ils l'ont fait de porte à porte. Ils sont partis, tous les deux, avec un papier, puis on fait du miel. Il y a eu des pots, un pot, deux pots, c'est temps. Fait qu'ils revenaient à la maison. On a vendu 50 pots, 75 pots dans le Trécaré, c'était au Trécaré. Et après cela, on partait, on embarquait les pots dans l'auto, on faisait le tour, puis ils allaient livrer leurs commandes. Puis on fait ça quelques années, peut-être les 3-4 premières années. Puis quand elles ont arrêté, on marchait dans vous venez plus nous voir? Ça permis de brancher les filles dans leur communauté immédiate. C'est sûr que Chloé a été beaucoup plus impliquée sur le terrain. Avec moi, ouvrir les ruches, chercher les reines, quand il faut changer les reines, tout ça, il faut les localiser. C'était le défi qui va la trouver en premier? Puis je vous dirais que la plupart du temps, c'était Chloé.
Et moi, c'est Chloé. Puis, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'on est en apiculture. Puis, en fait, mon père m'a appris avec tout ce qui est le domaine de l'apiculture. Je trouvais ça très intriguant. Je le voyais partir avec son habit, puis des fois, je voyais toutes les abeilles autour. Je me disais, ça a l'air impressionnant. Fait que je trouvais ça intéressant de voir la quantité d'abeilles, autant que des fois, ils sont super calmes, puis on peut être longtemps dans la ruche sans rien avoir, que d'autres fois, là, c'est plus mouvementé. C'était beaucoup d'intrigue là, qui m'a amené vers ça. Il m'a acheté un petit équipement, puis on est parti avec une ruche. Puis là, je me suis intéressée à aller une fois, deux fois. Puis là, il m'a montré comment ça fonctionnait. On avait chacun nos petits outils. Puis je trouvais ça le fun aussi, l'aspect d'une entreprise. C'est savoir comment ça fonctionne, aller porter le miel. Puis c'était tout chaque aspect là, de l'apiculture. Je trouvais ça intéressant de voir comment ça fonctionnait. J'ai fait beaucoup de projets d'école. Aussi, je m'amusais à faire des cherche-trouve de la reine. Donc, j'aimais ça expliquer aux gens le cycle d'une abeille. Les abeilles d'été, ils durent moins longtemps. Puis les abeilles d'hiver permettent la progression de la ruche jusqu'au printemps. Donc, j'aimais enseigner aux autres le principe de l'apiculture qui est moins connu. Oui, bien sûr que là, on est moins présente un petit peu, mais avant, c'est ça, j'allais beaucoup plus aux ruches avec mon père. Maintenant, j'aide plus avec le Facebook, nos réseaux sociaux, répondre aux courriels, puis ces choses-là. Nos tâches se diversifient avec le temps.
Comment qu'on devient apiculteur? Normalement, tes parents ont été apiculteurs, ou t'as un oncle apiculteur, où tu vis dans une région parce qu'il y a des apiculteurs, puis tu es allé voir, puis ah, ça fonctionne comme ça. Moi, c'est totalement l'inverse. J'ai une famille agricole, mais pas en agriculture. Fait que c'est simplement une curiosité. Je voyais qu'il y avait des ruches en ville, surtout Frontenac, entre autres. Fait que j'ai pris contact avec l'apiculteur qui avait des ruches sur surtout Frontenac. Il dit, oh, oui, on va à sa ruche. Fait qu'une semaine après, je recevais une ruche avec des abeilles. Au palais. Mais c'est pas pire, une ruche. Et là, puis lui, il m'a accompagné. Donc, j'ai fait une formation. C'était trois fins de semaine de deux jours, donnée par un apiculteur, en lien avec une salle d'agriculture. Et ça, je pense, c'est probablement le plus important. Faudrait que toute personne qui a des ruches ait une formation. Il s'est présenté une autre opportunité. Notre départ, on avait déjà une ruche, a coïncidé avec la mise en place la plateforme de socio-financement, la ruche. C'est un pur hasard, il y avait un des gouverneurs qui était sur le conseil d'administration de cette plateforme de socio-financement-là, qui dit, non, on a choisi hier le nom de l'entreprise, de la plateforme, on va appeler ça la ruche, on aimerait que toi et tes filles soyez un des premiers projets à solliciter du financement. J'ai dit oui, sans trop réfléchir à ce que ça impliquait. Fait que j'ai dit oui, on a impliqué Marie-Laure et Chloé, ce sont eux autres qui ont fait la demande, qui ont présenté. Et avec ça, ben là, on est passé de 1 à 3 à 5 ruches. Puis, c'était parti. Puis on s'est rendu plus populaire. Puis ça fait un lien avec ce qui se faisait à l'époque, comme M. Verrette, qui a créé l'Association des apiculteurs du Québec, avec ses ruches dans le parc de la commune, puis droit en avant de la maison chez nous. Fait que c'est comme une continuité, un peu hasardeuse, mais une continuité quand même. Il y avait des ruches à la fin, début de 1900, à Trécoré. Puis, au début de l'année 2000, des ruches qui sont venues à Trécoré. La saison apicole au Québec est très courte. Ça dure du mois d'avril au début novembre. Fait que là, en mars, la reine commence à pondre. La production de tranquillement. Puis là, arrive le printemps. Donc là, on ouvre la boîte de surprise, début avril, pour voir l'état de la situation. Est-ce qu'on a encore une belle population, ou, contrairement, elles sont décédées, une population moribonde. Fait que là, mettons que ça a bien été. Fait que là, au printemps, on a un étage, une hausse, on a une reine qui pond, on a souvent des surplus de réserve, on enlève des cordes, on met des beaux cordes avec des alvéoles, là, la reine pond. L'objectif maintenant, à partir de mi-avril jusqu'en fin juin, c'est d'augmenter la population. Donc, il va y avoir 10-15 000 abeilles au sortir du printemps. Puis on arrive à la fin juin, 60 000, 70 000 abeilles. Fait que donc, on manipule, on enlève les cadres de surplus qu'il n'y a pas de place pour prendre. Donc, c'est un mouvement continuel. L'été, l'automne, on se prépare à ce qui passe l'hiver. Début septembre, même s'il y a encore du pollen, on arrête, parce que là, il faut amorcer les traitements pour contrôler les parasites. C'est très important de contrôler les parasites, parce que ces abeilles-là, il faut qu'ils fassent 6 mois. Ils arrêtent de sortir début novembre, puis ça va jusqu'au mois d'avril, début avril. Petit détail, les abeilles l'été vivent 40 jours en moyenne. De novembre à mai, il y a 6 mois. Donc, si on veut que nos abeilles fassent un cycle, il faut les préparer en conséquence. Donc, pendant l'hiver, ils sont confinés dans une hausse, comme une grappe, la reine au centre. Ils ont plein de réserves qu'on s'est assuré qu'il y a à l'automne. Ils sont en hivernement, mais ils sont pas. Ils n'hibernent pas. Elles sont actives l'hiver. Ils se réchauffent, ils s'auto-réchauffent mutuellement. Fait que là, puis ils se déplacent dans la ruche vers les réserves. On résume, l'hiver, une grappe, température contrôlée, assez de bouffe. Printemps, assez d'espace pour que la reine puisse pondre et monter les populations rapidement. À partir de mi-juin, récolte de miel. Donc, bon. Le miel de printemps qui était produit en mai jusqu'à mi-juin. Miel d'été produit mi-juin, début août. Puis début août, septembre, le miel d'automne. Fait qu'essentiellement, c'est ça, on nourrit. Puis on refait les cycles. C'est assez spectaculaire de penser que la reine, avec sa phéromone, est capable de gérer l'ensemble des opérations de la ruche. Donc, t'as des abeilles qui sont responsables de la défense. T'en as d'autres qui sont des ventileuses pour contrôler la température. Puis après ça, t'as celles qui s'occupent des larves, donc t'as les nourrisseuses. T'as les abeilles qui produisent la cire, les cireuses. C'est une évolution, puis ils terminent butineuses. Fait que c'est comme une roue qui tourne, puis ça tourne constamment. Fait que la reine, elle pond sans arrêt, tout le temps. Du mois de mars, au mois de septembre. En moyenne, notre objectif, c'est d'avoir entre 15 et 20 ruches en production. Fait que, une ruche, au printemps, peut avoir 10-15 000 abeilles. Puis, en période de bonne production, donc fin juin, juillet, par ruche, 60 000 abeilles, 80 000 abeilles. Fait que c'est des bonnes quantités. On est capable d'avoir ce genre de résultat-là où est-ce qu'on est situé. On est situé en milieu urbain, mais c'est urbain, mais c'est très campagne. Il y a moins de pesticides, puis il y a beaucoup de plantes, parce que nous sommes situés dans le très carré à Charlebourg, parce qu'il y a des fleurs, il y a des arbres, donc il y a beaucoup de diversité, et ça, c'est le succès pour la bonne production de miel avec des ruches. Puis avec des plantes qui vont venir à maturité, produire des fleurs à différentes périodes de la saison, et c'est pour ça que nous, on s'est spécialisé en production de saison, un miel de saison. Donc, on a une miel de printemps. Le nectar va provenir des arbres. Nos premières fleurs, dont le fameux pissenlit. Miel d'été débute la production vers la mi-juin. On change de production quand on voit apparaître des trèfles blancs. C'est notre signature naturelle, on dit. Là, on est rendu aux plantes d'été. Qui va s'étendre jusqu'à fin juillet, début août. C'est la verge d'or. Et quand la verge d'or commence à fleurir, on est rendu à l'automne. Puis qu'on file jusqu'en début septembre. Donc, nous, c'est comme ça qu'avec on suit la phénologie la chronologie des saisons. Fait qu'on n'est pas sur des dates fixes. Ce sur quoi les abeilles vont butiner influence et le goût, la couleur. Donc faut l'apprécier. En l'hiver, on vend notre produit. Donc on fait tout l'empotage. Fait que tout se fait ici. Fait qu'on prend le miel qu'on a entreposé, qui a été produit pendant l'été, qu'on a entreposé, on le prépare, donc on le réchauffe, on le décristallise, on le met dans la poteuse, les petits pots, puis on va porter notre production, vendre notre production à différents endroits localement. Puis il faut être conscient que avoir une ruche, produire un petit peu de miel, c'est facile. Parce qu'une ruche, ça produit naturellement un petit peu de miel. avoir une ruche ou des ruches pour produire du miel et en vendre, c'est un autre défi. Puis, il faut être conscient aussi qu'il faut s'en occuper. Tu as des ruches, tu pars en vacances, ne pars pas à telle période parce qu'il faut que tu surveilles tes fautes parce qu'il faut aller aux ruches régulièrement. Je dirais pratiquement toutes les semaines. Soit une inspection rapide pour voir que tout va bien ou une inspection en profondeur. Bon, il y a un enjeu de base qui est le même pour tout le monde, c'est les parasites ou les maladies. Et ou les maladies. Mais les parasites, dans le fameux varroa, qui est un parasite qui fait qu'il va affecter les populations complètes d'une ruche. Puis donc, il faut constamment faire des inventaires de varroa, donc on a des façons de procéder, d'appliquer les traitements. Fonction si on est approche plus douce, plus biologique ou plus commerciale. Avec nous, on a choisi l'approche bio. Les parasites, là, sont là à l'année. Au printemps, petite population d'abeilles, petite population de parasites. Fait qu'on a quand même, on contrôle, on a des façons de. Mais on fait un suivi pratiquement tous les mois. On fait un inventaire, donc un décompte des parasites. Et la population de parasites a tendance à augmenter pendant ce. Et quand on arrive au mois d'août, septembre, en septembre, parce que là, on passe en hivernement pour les préparer pour l'hivernation, la population de parasites est normalement plus élevée. Mais c'est quand même assez exigeant. L'apiculture, là, les hausses à miel, là, ça peut facilement atteindre 50, 60 livres. Là, quand à bout de bras, monte ça sur la hauteur des ruches et tout ça, puis extraire, parce qu'on fait toutes les étapes. À l'occasion, quand j'extrais, ben, c'est là que Chloé va venir me donner un coup de main aussi, là. Ou empoter, là. Mais tout était quand même manuel. On n'a rien d'automatique. Chaque fois, c'est un petit défi. Je peux vous garantir que quand tu ouvres une ruche, tu penses pas à d'autres choses. Parce que là, tu as une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la décision que la reine va être changée? Donc ça, c'est une planification. Est-ce que je prends la décision de mettre une deuxième hausse? De changer des cadres? Donc, il y a toujours une décision à prendre parce que la saison est courte. Comme je disais tout à l'heure, on arrive, si on part au mois de mai, juin, tu arrives à fin juillet, bon, il faut qu'on va commencer à préparer les ruches pour l'hiver. On fait des manipulations, on abaisse, nous on hiverne avec une seule hausse, donc on abaisse la reine à l'étage du bas, on prépare, puis on nourrit, on traite, puis on arrive au rendez-vous d'octobre. Fini. Bon. Mais donc c'est très rapide, donc ça a dû s'occuper. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est la météo qui mène. C'est très sensible, une ruche. Quand on a de la sécheresse, les plantes sont secs. Donc, peu de nectar, peu de pollen, peu de production de miel. Quand il pleut beaucoup, beaucoup de nectar, beaucoup de pollen peut-être, mais les abeilles, ils sortent pas avec le pleut. Quand ils vendent beaucoup, sont moins efficaces. Une saison apicole extraordinaire ou idéale, c'est la pluie la nuit, chaleur le jour normal, autour des normales, 25-27 degrés, pas trop froid la nuit. Puis là, ça donne de très bonnes productions. Cette année, c'est une bonne année. Qu'est-ce que j'aime? Un peu de tout. Un peu de tout, là, dans le sens que c'est la curiosité, c'est du vivant, c'est jamais pareil. C'est de comprendre que c'est toujours l'interrogation. Bon, là, qu'est-ce que je pourrais faire le mieux? Je vous décore ou non? Donc, c'est cette vulnérabilité, parce que c'est du vivant, hein. Tu tournes à droite, vire à gauche, là. On peut pas leur dire ça. Donc, il faut stratégiquement s'adapter à eux autres pour voir un peu comment qu'on peut les accommoder pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est une collaboration. C'est quand même assez réconfortant de voir que les gens ce souci de ne pas éliminer les abeilles parce que le rôle en pollinisation. Fait que c'est une belle sensibilisation. On connaît pas l'avenir. C'est certain que les filles, les deux, qui n'ont pas fait d'études au niveau de l'environnement, ils n'ont pas fait d'études en apiculture. Moi non plus. Cependant, il y a un intérêt parce que tous les fois que j'ai mentionné, pense va arrêter, c'est elles qui disent non. OK. Et on continue. Une chose est certaine, c'est qu'ils seraient capables d'être apicultrices. Parce qu'ils m'ont fait assez souvent avec moi pour savoir quoi faire, comment s'y prendre, ou bien où appeler pour avoir des conseils. Donc ça, je pense que oui. Puis je pense que c'est un éveil aussi. C'est 13 ans, à 12 ans, 13 ans, aller faire une présentation pour solliciter des fonds, acheter des équipements, gérer une petite entreprise qu'on les a accompagnés, là, mais c'est fini une vie.
Avec ce que Bernard a dit, est-ce qu'on compléterait un peu le métier d'apiculteur?
Ben, en fait, c'est une fois quelque chose qui s'est fait en trois universités, c'est plus quelque chose qui s'est transféré pour génération.
Ben, il faut être passionné. Moi, c'était plutôt une question. Est-ce que dans une ruche, il y a une seule reine abeille?
Oui, il a dit qu'il y avait entre 15 et 20 ruches, et chaque ruche a sa propre reine.
Je pense pas qu'ils ont dit, mais c'est pour être apiculteur, faut aimer le miel.
Faut aimer le miel?
Vu que.
Non. Je pense que c'est pas un prérequis.
Moi, j'ai une question. Est-ce que des apiculteurs peuvent vendre leur propre miel? Eux, ils en vendent.
C'est vous avez vu les petits pots?
Fillon,
ouais,
et
puis
c'est
Fillon
et
puis.
Ouais, mais ils vendent ça où?
Ils vendent ça un peu partout. Okay. Souvent, c'est des gens qui les appellent pour aller chercher le miel parce que 10, 15 ruches, c'est pas beaucoup de ruches. Donc, eux autres, c'est vraiment une toute petite entreprise.
Oui. Ça dépend du travail des abeilles, ce que le miel coûte ou la couleur.
Exactement. Donc, il y avait trois sortes de miel, si je me souviens bien. Il y avait du miel
d'automne, d'été et printemps.
Exactement. Toutes les saisons, donc.
À part l'hiver.
Donc, on peut se demander qu'est-ce que les abeilles font l'hiver?
Ils restent ensemble dans leur ruche.
Qu'est-ce que Bernard et Chloé font l'hiver par rapport au métier d'apiculteur, vous pensez?
Ben, ils peuvent vérifier si les abeilles sont encore en santé.
Oui, souvent, justement, comme il y a plein de neige, c'est un peu peut-être difficile d'aller voir si les abeilles vont bien. Mais c'est un bon début de réponse.
Ils peuvent continuer à les nourrir même si c'est l'hiver.
Non, ils dorment, donc on les nourrit pas. Donc, ils s'assurent de mettre beaucoup de nourriture avant.
Tant qu'ils prévoient l'année où ils ont, ils font des appels pour faire une publicité, pour récupérer plus de monde qui écoute leur miel.
Oui, exactement. Donc,
puis avoir plus d'argent pour avoir plus d'appels.
Préparer la vente puis faire les ventes, c'est ce que je comprends bien?
Ouais.
Oui.
Est-ce que ça existe un roi abeille?
Non, c'est vraiment juste les reines. Je vais vous demander de trouver la reine.
C'est la plus grosse.
Exactement, c'est la plus grosse. Donc, moi, je vais bien aux yeux.
Est-ce que c'est toi qui as pris la vidéo?
Oui.
Est-ce que t'as mis le gros habit blanc, là, avec le truc?
Vous les avez vus qu'avec leur gros habit?
Ouais.
Moi qui m'en ai là. Oui, oui. T'as aussi ton habit parce que on y a des risques. Ça reste une abeille qui est un insecte piquant.
Je sais pas, je vais le faire piquer.
C'est toi qui as pris la vidéo, genre, du corps.
Oui, c'est moi qui ai pris toute la vidéo.
Est-ce qu'ils peuvent en faire leur job si maintenant ils sont allergiques aux abeilles?
Normalement, ils ont des protections. Ça peut se faire, mais je pense que d'autres ne sont pas allergiques.
Ouais.
Donc, j'ai une dernière question pour vous pour revenir sur les abeilles. On parlait de patrimoine immatériel, de transmission de génération en génération. Donc, les apiculteurs ici, de M. Pilon, c'est transmis de génération en génération. Oui? Est-ce que toi, c'est lui ou non?
Le monsieur, non.
Le monsieur, non, exactement.
Mais c'est fait, oui.
La fille, oui. Donc, une partie de génération en génération. Oui.
Ben, monsieur Fillon, il a appris tout seul en ayant des cours, mais c'est lui qui leur a appris comment récolter le miel puis en prendre soin.
Exactement. Donc, il y a une partie de transmission. Donc, c'est la première génération. Donc, il y a Bernard qui l'a transmis à ses filles. Et dans le Trécaré, il y a une histoire apicole. Donc, une histoire par rapport aux abeilles. Parce que, au début des années 1900, il y avait Jacques Ferdinand Vairette, qui avait 250 ruches dans le Trécaré. Donc, il y avait des milliers d'abeilles dans le Trécaré. Monsieur Fillon a repris ça un peu par lui-même, et là, il transmet à ses filles.
Est-ce que c'est une entreprise qui a marché dans le Trécaré?
Oui.
Et Fillon et...
Fillon et filles, avec les pots de miel, oui. Ça marche encore aujourd'hui. Si vous voulez, au moulin, on en vend des petits pots de miel. Sinon, ils ont une page Facebook, vous pouvez les contacter. Je pense que dans quelques petits commerces aussi, il y en a.
Mais vous n'en vendez des pots de miel, mais leurs pots de miel?
Oui, leurs pots de miel. Bernard est arrivé avec sa caisse de pots de miel, fait que moi, je le mets dans ma petite boutique. Les gens qui viennent au moulin peuvent acheter. Est-ce qu'on peut dire que le patrimoine existe dans le Trécaré?
Oui.
Oui, on peut dire qu'il y a du patrimoine. Oui. Est-ce que vous avez aimé ça aujourd'hui?
Oui.
Oui, qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Oui. Oui, ça.
J'ai aimé qu'on aille parler de les métiers qu'avant ils faisaient, puis là, il est encore conservé, hein.
maintenant. Puis j'ai, ouais, ça. Puis l'histoire du vrai Corée. Avant, je savais pas parce que moi, je suis pas de Charlebourg.
Moi, c'est, ben, j'ai tout aimé. Et j'ai appris des trucs sur l'agriculture. Je savais pas qui préparait 3 autres saisons. Moi, avant, et même aujourd'hui, je pensais qu'il préparait juste une saison.
Moi, j'ai beaucoup aimé parler des 2 sortes de patrimoine parce que ça m'en a appris beaucoup plus.
Super.
Oui. Moi, j'ai appris c'était quoi un apiculteur, je savais pas c'était quoi avant.
Génial.
Oui, derrière. Mais moi, ça me donne envie d'aller acheter du miel de
Omelette
ici.
Génial. Oui, derrière.
Moi?
Oui.
Moi, j'ai beaucoup aimé quand on parlait du tricaré parce que je savais même pas que ça existait.
Génial!
Moi, j'ai aimé ça, apprendre plus sur l'apiculteur, là, parce que j'ai jamais vraiment vu ça dans les jeux, mais c'est rare.
C'est rare qu'on peut voir les abeilles dans les ruches.
Oui.
Oui. Oui, en arrière.
Ben, moi, j'ai aimé parler des apiculteurs, même si j'aime pas les abeilles, mais aussi, mais ça m'a donné peur parce que c'est pas bien.
Vous venez d'écouter le 2e épisode de la saison 2 du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du trait carré. Dans le prochain épisode, je vais aller rendre visite au Cercle des fermières pour parler de travail textile et de vitalité du patrimoine. Restez à l'écoute!